13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. L'actualité de ce samedi, on l'a dit, c'est donc l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes. Nous rejoindrons au début de l'émission dans les rues de Paris, Romain Nocquet. Tout Terrain, vous le savez, c'est aussi le retour sur l'actualité de la semaine. Et ce procès historique à Lyon, il a mis pour la première fois face à face l'Église et les victimes d'un prêtre pédophile. Témoignage bouleversant des victimes, nous dira Jean-Luc Boujon, qui a suivi le procès du cardinal Barbarin. Vous saurez tout avec nous. Envoyés spéciaux à Las Vegas sur les objets connectés qui vont révolutionner notre quotidien. Démonstration à la pluie. Elle illumine littéralement le film Les Invisibles. Adolpha, ancienne SDF, a été rencontrée par Carole Ferry. Si les lycéens commençaient les cours une heure plus tard, idée lancée par la présidente de la région Île-de-France, on en parlera avec Virginie Salmen. Et puis Tintin fête ses 90 ans, pas une ride. Thierry Geffrotin nous expliquera pourquoi le héros séduit encore les plus jeunes. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout terrain, Fabienne Lemoyle.
Et je vous le disais pour commencer, Tout terrain, on va refaire un point sur les actions en cours ou prévues pour ce 9e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Je dis en cours ou prévues car il y a eu une multiplication des points de rassemblement annoncés sur les réseaux sociaux, comme pour mieux brouiller les cartes avec les forces de l'ordre. À Paris, on retrouve Romain Nocquet. Vous suivez, on vous a entendu dans le journal de la mi-journée, le cortège qui est parti de Bercy. Vous en êtes où de votre progression vers les Champs-Élysées ?
Alors, les Gilets jaunes marchent à présent dans la rue de Rivoli à Paris. Un cortège qui avance dans le calme, au rythme des slogans et toujours encadré par une dizaine de fourgons de CRS et un canon à eau. Alors, j'ai pu parler ce matin avec plusieurs Gilets jaunes et ils sont unanimes. Ce qui les a motivés pour cet acte 9, c'est la phrase d'Emmanuel Macron hier soir. Le président a estimé que trop peu de citoyens avaient le sens de l'effort. Un manque de respect pour Laurence, fonctionnaire.
Les Français n'ont plus le sens de la motivation, hein, parce que le sens de l'effort, on peut l'avoir dès l'instant où l'effort rétribue. Je paye mes impôts, j'élève mon fils, je paye mes cotisations qu'on prélève sur mon salaire, il n'y a aucun souci. En revanche, la motivation, quoi, c'est-à-dire de se dire au bout du compte, tout ça pour ça.
Alors, un seul cortège sur Paris pour l'instant, pourtant il y avait de nombreux points de ralliement sur les réseaux sociaux lancés pour la capitale.
Oui, tout à fait, comme du côté des Champs-Élysées, lieu emblématique de la mobilisation, où il y avait déjà quelques dizaines de gilets jaunes près de la place de l'Étoile ce matin. En prévision du cortège qui doit arriver en fin de journée, des barrières ont été installées autour de l'Arc de Triomphe. Plusieurs dizaines de fourgons de CRS attendent également les manifestants, tandis qu'un mur de barrière a également été dressé en bas des Champs-Élysées. Un autre rassemblement est aussi prévu cet après-midi sur l'esplanade de la Défense, un lieu qui avait été défini très tôt dans l'organisation de l'acte 9, 3000 participants annoncés sur Facebook, un lieu qui était encore désert ce matin quand j'y suis allée. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'après-midi s'annonce compliqué pour les forces de l'ordre qui ne savent pas en fait où sont prévus exactement les points de rendez-vous des Gilets jaunes. Sur les réseaux sociaux, les rassemblements se sont multipliés ces derniers jours, comme cet énième cortège prévu par exemple au départ de la place Vauban. Alors il y a tout de même 4 points de rassemblement officiels prévus aujourd'hui, les Champs-Élysées, je vous en ai parlé, mais aussi la place du Trocadéro, de la République ainsi que devant le siège de Média Parisien.
Voilà pour la situation à Paris avec donc Romain Nocquet. On vous l'a dit, à Bourges, il y a près d'un millier de personnes dans les rues actuellement. On referme cette page Gilets jaunes. Dans un instant, on part à Lyon et cette première en France cette semaine, l'Église face aux témoignages bouleversants des victimes d'un prêtre pédophile au procès du cardinal Barbarin.
13h06, vous écoutez Tout Terrain sur Europe 1 avec Fabienne Lemoyle.
C'est donc le 7 mars prochain que le cardinal Barbarin saura s'il est condamné pour non-dénonciation d'agression sexuelle. En cause, les agissements d'un prêtre de son diocèse, le père Prénat, sur de jeunes scouts. C'est ce que veulent les victimes, cette condamnation. La procureure de la République n'a en revanche réclamé aucune peine contre le primat des Gaules. Mais quel que soit le jugement, ce qui restera, c'est l'image du porte-parole du diocèse remerciant l'association de la parole libérée qui a voulu ce procès.
Merci à Alexandre et François d'avoir permis à certains de libérer cette parole. Je ne suis plus le même homme avant et après. Merci d'avoir secoué l'Église, parce qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des difficultés et il faut qu'on change, quoi.
Merci en tout cas pour la sincérité de tes mots et je te l'ai reçu.
Bonjour Jean-Luc Boujon.
Bonjour Fabienne.
Correspondant d'Europe 1 en région Rhône-Alpes, c'est vous qui avez recueilli cet échange, vous qui avez suivi ces 4 jours d'audience et surtout, qui suivez cette affaire depuis les premières plaintes. Qu'est-ce qu'il faut penser justement de cet échange, Monseigneur Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon, qui vient donc saluer François Devaux, victime du père Prénat? C'était sincère, c'est à l'image du procès qui a été, il faut le rappeler, et c'est historique, le premier face-à-face entre des victimes d'un prêtre pédophile et l'Église.
Alors sincère, disons que cela avait des accents de sincérité, hein, c'est plus juste. Il y a eu effectivement un mouvement, il y a eu une accolade après, il y a eu une poignée de main, il y a eu ces mots qui sont assez forts quand même. Hein. Merci d'avoir secoué l'Église, c'est pas rien, de la part d'un homme qui certes n'était pas prévenu, mais qui fait partie de la hiérarchie du diocèse de Lyon. C'est le numéro 2 du diocèse, hein, c'est le porte-parole. Donc c'est une reconnaissance publique de la justesse du combat des victimes du père Prénat durant ces 3 dernières années par l'Église de Lyon. Après, est-ce que c'est à l'image du procès? Moi, je dirais pas vraiment, hein, d'abord parce que ça intervient le dernier jour, donc un peu in extremis, et puis surtout parce que les 6 prévenus, eux, ne se sont pas vraiment adressés aux victimes durant 4 jours. Alors oui, tous ont exprimé leur compassion, ils ont déclaré comprendre la souffrance des victimes, mais cela a souvent sonné comme des paroles un peu de pure forme, un peu vides de sens, y compris les mots du cardinal Barbarin, c'était un peu téléphoné. Et puis surtout, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu de demande de pardon, on a eu davantage un discours juridique de la part du cardinal. Oui, j'ai sûrement commis des erreurs, mais pas de faute, sous-entendu, pas de faute pénale, donc je ne vois pas pourquoi je serais condamné. Évidemment, ce n'est pas ce qu'attendaient les victimes, qui pour certaines ont jugé très sévèrement le geste du dernier jour, à l'image de Pierre-Emmanuel Germain-Thiel. Écoutez.
Bah, merci pour sa com pour l'Église de France, quoi. Je pense plus que c'est de la com. Il est venu me saluer. Forcément, qu'il vienne comme ça à poser cette parole en marge du procès, pour moi, c'est pas suffisamment sincère.
Ces mots, vous les auriez espérés de Monseigneur Barbarin, plutôt?
Oui, mais il n'y a pas eu un seul regard, il n'y a pas eu une seule empathie, il n'y a rien eu. Donc, est-ce que vous voulez répondre à ça? Il salue les avocats, mais il ne salue pas les gens qui ont été victimes.
Donc, on l'entend, sentiment contrasté, partagé au sein même de l'association qui a porté ses plaintes depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on a appris finalement à ce procès, Jean-Luc, alors que plusieurs des personnes, ils étaient 6 en tout, à devoir répondre de non dénonciation d'agression sexuelle sur des mineurs. Plusieurs de ces prévenus n'ont rien voulu dire. Qu'est-ce que ça a apporté du coup aux victimes?
Oui, c'est vrai, il y a eu 2 prévenus, 2 des plus proches collaborateurs du cardinal qui se sont bornés à lire un texte écrit et puis ensuite rien du tout. La présidente a tenté plusieurs fois de leur poser des questions, ils ont gardé le silence, presque comme des petits délinquants qui n'assument pas. Alors ils en ont le droit juridiquement, hein, faut le savoir, mais l'impression a été assez désastreuse, un peu comme s'ils craignaient d'être débordés. Ça faisait l'effet de la peur d'une parole spontanée, non écrite, non préparée. Ce qui est un peu tout le drame de cette affaire, hein, ces mots qui ne se disent pas, cette réalité des abus sexuels d'un prêtre qui a été cachée durant des années. Du coup, par contraste, les témoignages des victimes ont résonné très fort, des victimes qui sont des hommes d'une 40aine d'années. Parfois ce sont des grands gaillards dont certains n'avaient jamais parlé de cela en public avant cette semaine. Ils ont dit avec des mots simples mais précis comment le père Prénat les a abusés quand ils avaient 8, 9, 10 ans et qu'ils étaient scouts à Sainte-Foy-les-Lyons. C'était absolument effroyable, émouvant mais effroyable, comment cela les a brisés. Je pense notamment au récit qu'a livré Didier Burdet devant le tribunal, ces mots du père Prénat qui lui reviennent alors qu'il devient papa d'un petit garçon.
J'ai parlé à mon fils, il n'était pas en âge de comprendre, il devait avoir quelques mois. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, t'es mon petit garçon à moi. Et ce jour-là, tout a explosé en fait en moi. Tout est remonté à la surface. C'était les mots comme c'était Prénat quand j'étais dans ses bras, quand il se masturbait sur moi, quand il se frottait sur moi. Il disait ça, il disait, t'es mon petit garçon à moi, c'est notre secret, faut pas en parler. Les responsables, ce sont ceux qui ont laissé Prénat en activité depuis sa nomination. On l'a laissé faire et au contraire, on l'a encouragé à faire ça puisqu'on lui a donné des promotions pour s'occuper d'encadrement d'enfants. On lui a amené des victimes toutes fraîches sur un plateau. Effectivement, j'ai bien été enfermé pendant 40 ans dans mon silence. Et je voulais rebondir hier sur 2-3 personnes qui se plaignaient d'être, elles, mises sous pression depuis 3 ans. Moi, ça fait 40 ans que je vis ça. Ça fait 40 ans que je vis dans le silence. Ça fait 40 ans que ma vie est détruite.
Qu'est-ce que vous attendiez du cardinal Barbarin?
J'aurais aimé qu'il me regarde quand j'ai improvisé mon petit discours. Qu'il me regarde dans les yeux. Juste ça.
Ça n'a pas été le cas.
Malheureusement, non.
Voilà, témoignage assez édifiant, d'autant que Didier Burdet, juste après, a expliqué les conséquences de ses révélations sur sa famille qui a littéralement explosé, sa femme qui a demandé le divorce, sa mère très croyante qui ne lui parle plus, et sa solitude avec sa détresse pendant des années jusqu'au moment, il y a 3 ans, où il a entendu parler de l'association La Parole Libérée. « Je ne suis plus seul désormais », dit-il, et c'est cette réalité qui a donné à ces hommes la force de parler cette semaine.
La procureure de la République a dit qu'elle ne réclamait aucune peine. Du coup, on pourrait se dire tout ça pour ça, et pourquoi un procès d'ailleurs ?
Ouais, c'est vrai, on pourrait se dire cela. La procureure a en fait marché dans les pas de la décision du parquet d'août 2016 qui avait classé l'affaire sans suite, estimant qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, essentiellement parce que presque tous les faits d'abus sexuels sont prescrits et que le délit n'était pas constitué.
On rappelle que le délit, c'est non-dénonciation d'agression sexuelle, hein, et ça vise le cardinal Barbarin.
Voilà. Et c'est pour ça que les victimes ont en fait, pour contourner ce classement sans suite, ont utilisé le principe de la citation directe, qui permet un procès, mais sans instruction. Du coup, c'est aux victimes de prouver qu'il y a eu faute pénale, pas au parquet. Donc, évidemment, c'est plus compliqué, et c'est pas sans risque, hein, car le tribunal peut estimer que la procédure est abusive, non fondée, et il peut se retourner financièrement contre les victimes. Ce ne sera pas le cas ici, évidemment, même si les avocats de la défense l'ont demandé. Mais c'est vrai que la probabilité d'une condamnation le 7 mars prochain est faible. Elle existe néanmoins, parce que la présidente du tribunal a montré une grande attention à la détresse des victimes. En tout cas, la première victoire de la parole libérée, c'est d'avoir obtenu ce procès, d'avoir mis victimes et religieux face à face, et d'avoir créé le débat toute la semaine autour de l'attitude de l'Église face au problème de la pédophilie en son sein. Et ça, c'est déjà une énorme victoire.
Et puis au cœur de cette affaire, il y a un prêtre, le père Prénat, et lui, il y aura son procès bientôt, Jean-Luc.
Oui, alors il devrait avoir lieu avant la fin de l'année, devant la cour d'assises de Lyon, mais pour l'instant, on n'a pas encore la date, mais ce sera sans doute là encore un grand moment, plein d'émotions et sans doute de révélations également.
Merci beaucoup Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en région Rhône-Alpes, et on suivra avec vous les suites de cette affaire avec le jugement attendu le 7 mars.
Europe 1.
Et avant de poursuivre tout terrain, on va revenir sur l'actualité de ce samedi. La principale information ce matin, cette violente explosion dans le 9e arrondissement à Paris. Le bilan qui s'est alourdi, 4 morts, 2 pompiers et 2 habitants du quartier. Bilan communiqué à l'instant par le ministère de l'Intérieur. Dans un instant, on part à Las Vegas.
Il est 13h17, tout terrain. L'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et avec un rendez-vous dédié à l'innovation.
C'est le rendez-vous incontournable pour découvrir tout ce qui va révolutionner notre quotidien demain. Le grand salon de l'électronique grand public s'est donc tenu cette semaine à Las Vegas. Le CES pour Consumer Electronics Show. Nuit blanche sur Europe 1 entre mardi et mercredi. 4 heures avec nos envoyés spéciaux pour tout savoir sur ces objets connectés qui vont nous faciliter la vie.
Europe 1, en direct de Las Vegas. Vous avez rendez-vous avec le futur.
Bonsoir, bonjour, je ne sais pas ce que je dois dire. Bonsoir Guérin Martinez.
Bonsoir François.
Vous êtes le geek de la rédaction d'Europe 1, le spécialiste de tout ce qui est de près ou de loin connecté ou technologique, et vous venez chaque année au CES de Las Vegas.
Voilà, le décor est planté. Ils étaient donc 3 en fait à vous faire vivre cette folle nuit. François Geffrier, Grégoire Martinez et Paul Lassène. Bonjour messieurs.
Bonjour Fabienne.
Alors on l'a bien compris, Las Vegas n'est pas que la capitale du jeu, quoique quand on entend les petites séquences où vous avez fait tester à plusieurs de nos collègues d'Europe 1 toutes sortes d'objets connectés, on voit combien c'est ludique. Alors on va d'abord commencer avec vous François Geffrier, combien de CES déjà à votre compteur François?
C'est le 5e Fabienne d'affilée.
Alors vous avez eu pour ce 5e CES une idée formidable avec Grégoire Martinez, ces 4 heures d'antenne en direct. Pourquoi ? Parce que le CES, ça reste vraiment la vitrine incontournable des objets de demain ?
Le CES, ça fait 50 ans et même un peu plus que ça existe. C'est le temple de tout ce qui sort, de tout ce qui est le plus connecté, le plus design, le plus nouveau, les hautes technologies, des choses assez gadgets et puis des choses vraiment qui vont révolutionner tout ce qui fait notre quotidien, toutes les machines, toutes les voitures, les industries. Et donc effectivement, c'est là notamment qu'ont été présentés des nouveaux types de lecteurs DVD, de nouvelles télés toujours plus grandes. Et donc c'est ça qu'on est allé observer cette année encore pour Europe 1 à Las Vegas.
Et puis il faut le dire, les Français sont toujours là-bas en force. Encore très bien représenté cette année, je crois.
Oui, il y a plus de 400 entreprises françaises qui sont là cette année au CES. C'est la deuxième délégation si on prend les startups. Il y a les États-Unis, puis ensuite il y a la France qui est quand même assez formidable parce qu'il y a des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon qui sont évidemment très avancés technologiquement. La France est venue en force massivement avec des startups qui sont très fortes. La maison connectée, la santé connectée notamment, et puis aussi tout ce qui est dans le domaine des transports, la voiture du futur notamment.
Et pourtant, pas de ministre français cette année à Las Vegas, François.
Non, c'est vrai qu'on s'y était habitué. 5 années de suite, le gouvernement français avait été représenté. Il y a eu Fleur Pellerin, Michel Sapin, le ministre Emmanuel Macron 2 années de suite, et puis Mounir Majoubi l'année dernière. C'est peut-être le contexte gilet jaune qui fait que Las Vegas, c'est un peu bling-bling, c'est la start-up nation. Du coup, même les présidents de région qui étaient là en force l'an dernier, Valérie Pécresse, Hervé Morin ou Alain Rousset, ne sont pas venus cette année.
À Alors, je le disais, c'est un moment vraiment savoureux pendant votre longue nuit à Las Vegas. Vous avez fait tester certains de ces objets avant de partir à nos collègues. On va commencer par le mug connecté que vous avez mis entre les mains de l'assistante du service économie, Liliane Micellis.
Alors, attends. Une paire de ciseaux. Pour boire un café, il faut une paire de ciseaux maintenant. C'est ça le modernisme. Ah, voilà. Ah ben, il est très très lourd. Alors, faut pas le mettre au micro-ondes, apparemment. Oui, alors là, faut déjà trouver le français. Pour configurer votre tasse Amber, téléchargez l'application. Ouais, bah alors là, j'y passe la matinée là pour boire un café.
Donc ça y est, on a téléchargé l'application. Qu'est-ce qu'on fait ensuite?
J'appuie dessus. Voici Amber, le mug à température réglable le plus avancé dans le monde. Bon, déjà, c'est pas très bien parler français, tout ça.
On nous demande si on est d'accord pour accepter la politique de confidentialité.
On dit oui. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est surtout boire du café.
Ça fait 9 minutes 37 qu'on a commencé.
Réussite, le micro-logiciel est à jour. Eh ben, génial. Alors, on y va.
Le café est dans la tasse et l'application sur smartphone s'en est aperçue, visiblement.
Il est à température. Bon, alors, pour ceux qui l'aiment très, très chaud... Il n'est pas très très chaud, 55 degrés en fin de compte, j'ai pas l'impression, mais bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai. C'est bon à boire tout de suite, quoi.
Bon, Grégoire et François, on va se le dire franchement, tout ça pour ça quand même, mais au bout d'un quart d'heure, est-ce que ça monte pas un peu la limite parfois des objets connectés qui doivent pas se résumer à un simple gadget?
C'est vrai qu'au CES, on voit énormément d'objets connectés dans tous les domaines, hein, et c'est pas toujours extrêmement utile. Parfois, ça tient un peu du gadget, ça peut nous rendre un service, mais c'est loin d'être indispensable. On a testé un autre objet, nous, ici, au CES, qu'on s'est fait livrer dans notre chambre d'hôtel. C'est un micro-ondes connecté avec un assistant intelligent. Il nous a fallu, pour vous donner une idée, une journée complète pour réussir à le faire fonctionner. Et ensuite, ça permet simplement, en fait... Exactement, faut pas avoir trop faim. Et après, au bout d'une journée, vous pouvez lui dire « Alexa, fais chauffer le pop-corn qui est dans le micro-ondes ». Et par contre, là, le micro-ondes lance automatiquement le micro-ondes à la bonne température et pour la bonne durée.
Alors, même question à tous les deux. On y fait quoi concrètement en coulisses, justement, au CES? On cherche des fonds, des distributeurs?
Alors, on cherche plutôt des distributeurs parce qu'ici, c'est pas vraiment le bon endroit pour lever des fonds et rencontrer des investisseurs. En revanche, c'est le bon endroit pour se préparer à vendre son objet. Il y a tous les distributeurs, tous les représentants des grands magasins d'électronique et des magasins grand public qui sont ici à Las Vegas et qui viennent rencontrer les startups pour repérer les produits qu'ils pourraient mettre dans leur rayon dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Alors, je ne résiste pas à un deuxième exemple. Parmi les rois de ce salon, il y avait une fois encore les assistants vocaux. Là, c'est Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, qui a servi de cobaye en faisant sa liste de courses.
OK Google, parlez avec Monoprix.
Bonjour et bienvenue chez Monoprix. Je suis là pour vous aider à faire votre liste de courses.
J'ai besoin de couches en taille 4 chez Pampers.
OK bébé, j'ajoute couches en taille 4 chez Pampers.
Je voudrais du riz.
Ajouter. D'autres envies à ajouter à votre liste?
Ah, des envies. Je voudrais un voyage aux Bahamas.
Voyage aux Bahamas ajouté. D'autres envies à ajouter à votre
liste? Tu peux demander tout ce que tu veux, c'est ça qui est bien. Alors, il y a bien les couches, il y a bien le riz. Par contre, macédoine de légumes, j'ai jamais demandé ça et je déteste ça en plus. Voyage aux Bahamas, j'avais demandé, donc j'ai des pains au lait aux pépites de chocolat. C'est pas une grande efficacité quand même.
Bon, il y a encore des réglages à faire, Grégoire Martinez, sur ces objets, ces fameux assistants vocaux.
C'est vrai que les assistants vocaux, ici, ils sont partout, ils s'intègrent maintenant dans les télés, même on va en voir dans des bâtiments neufs. Dès que vous achèterez une maison, vous aurez un assistant vocal dedans, c'est le français Legrand qui propose ça. Mais bon, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire parce que la reconnaissance vocale, c'est quelque chose qui est très compliqué à maîtriser. Ça demande de bien comprendre tous les accents, toutes les tics de langage des personnes qui vous parlent. Et ça demande donc effectivement du temps de développement par les grandes entreprises qui préparent ces assistants.
Alors, Grégoire Martinez, vous en êtes à votre cinquième CES. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année?
Cette année, on voit beaucoup de drones taxis ici à Las Vegas et notamment le service de VTC Uber qui a une filiale dédiée à ces drones taxis qui s'appelle Uber Elevate. On a rencontré son directeur de l'ingénierie et il nous a expliqué un peu ce qu'il présentait ici.
Yeah, you can call it a drone taxi. This is a new type of aircraft.
Oui, vous pouvez l'appeler drone taxi. En fait, c'est quand même plutôt un nouveau type d'avion entièrement électrique qui va décoller et atterrir à la verticale et qui peut transporter de 4 à 5 passagers dans les villes. Au départ, il y aura un pilote, mais à terme, nous voulons passer à des drones totalement autonomes. Mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments qu'il ne faut pas négliger, comme l'infrastructure et les héliports où ces appareils se poseront et décolleront. Pour cela, nous travaillons avec des entreprises du bâtiment.
Tout ça, ça peut faire penser un peu à un film de science-fiction, mais ça existe déjà. Le premier prototype, il est présenté ici à Las Vegas. Et Uber veut faire voler ses drones commercialement dès 2020. 2023 dans deux villes aux États-Unis, Dallas et Los Angeles, et puis une troisième ville à l'international qui pourrait être en France. C'est l'un des dossiers qui est étudié en ce moment. Alors au départ, forcément, ce sera cher. Ce sera environ 30 à 40% moins cher seulement qu'un hélicoptère. Ça veut dire qu'il faudrait environ 125 euros, payer 125 euros pour rejoindre Paris-Centre à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mais d'ici quelques années, Uber nous explique que ce sera le même tarif qu'une course en voiture aujourd'hui.
2023, effectivement, c'est demain. Alors à vos côtés, il y a un petit nouveau. C'est Paul Lassen qu'on a entendu tous les soirs dans le grand journal de Mathieu Bédiard dans le 17-20. Paul, vous, c'est votre premier CES ?
Oui, je suis le petit bisu. C'était la première fois que je me rendais à Las Vegas pour le salon.
Baptême du feu, du coup. Et alors, quelle image vous allez garder de ce premier CES ?
Eh ben, y a une chose qui m'a marqué, moi, c'est l'organisation, en fait. Le CES, il faut expliquer aux gens que c'est divisé en deux grandes salles. La première, qui est le Las Vegas Convention Center, qui est une espèce de grand hall d'exposition, un peu comme on a en France, à Porte de Versailles ou à Villepinte. C'est immense, vraiment. Et l'autre est en plein centre de la ville, sur ce qu'on appelle le Strip, qui est la grande avenue de Las Vegas, où on a tous les hôtels. Eh bien là, c'est une toute autre atmosphère, puisque pour y accéder, on rentre par l'hôtel qui s'appelle le Venetian, le Venise, qui est une réplique quasi parfaite de la ville italienne, avec la place Saint-Marc, avec les gondoles. Il faut bien que les gens se rendent compte que Las Vegas est une ville comme aucune autre. Il y a des casinos partout, des hôtels partout, mais on est quand même en plein milieu du désert. Il y a 180 000 personnes qui sont venues visiter le CES cette année. Donc vraiment, l'organisation est assez impressionnante.
Et un objet que vous avez testé ?
C'était chez Mathieu Béliard mardi. C'est la valise connectée intelligente. Pour ceux qui n'ont pas entendu, en fait, c'est une valise que vous n'avez pas besoin de tirer vous-même.
C'est-à-dire donc elle se promène derrière vous.
Voilà, vous enfilez un bracelet sur votre poignet. La valise reconnaît le bracelet. Du coup, elle vous suit partout, que ce soit à l'aéroport, dans la ville, à la gare. Et pour éviter les gens, qu'elle ne rentre pas dans les gens, elle est dotée d'une caméra. Et donc, l'intelligence artificielle fait tout, puisqu'elle permet de voir donc les gens qui sont là et surtout d'anticiper les mouvements qu'ils pourraient faire. On l'a vu déambuler dans les allées du salon et c'est assez impressionnant.
Merci beaucoup. Bon retour à Paris avec pourquoi pas cette valise connectée que vient de nous décrire Paul. Merci.
Merci Fabienne. Europe
1. À suivre, elle s'appelle Adolpha, cette ancienne SDF, aujourd'hui comédienne, illumine le film Les Invisibles.
À 13h30, on retrouve Fabienne Lemoelle pour la suite de Tout Terrain sur Europe 1. Et maintenant, Fabienne, la fiction portée par la réalité.
On les appelle les invisibles. Ces femmes SDF sont les héroïnes d'un film qui est sorti mercredi sur les écrans, avec dans l'un des rôles principaux Adolpha, que nous faisait découvrir Carole Ferry mercredi dans Vous êtes où ce matin.
Je suis dans un F2, dans un HLM des quartiers de l'île Sud. Au mur, vous avez l'affiche du film Les Invisibles, car je suis chez Adolpha. Aujourd'hui, Adolpha a son petit chez elle. Mais la rue, elle a bien connu la prison aussi, 11 mois pour avoir tué son mari qui la battait. À 70 ans, la voilà dans la lumière, mais après une vie bien sombre.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Ce film Invisible, c'est un film qui s'appuie sur le vécu de ces femmes SDF au point que les comédiennes ont vécu ce qu'elles jouent à l'écran.
Oui, alors en fait, c'est un film inspiré du documentaire de Claire Lajeuny sur, en effet, les femmes SDF. Ce sont elles, hein, les invisibles. Elles sont invisibles parce que on ne les voit pas. Parfois, on ne veut pas les voir. Parfois, ce sont elles qui se cachent parce qu'elles ont un peu honte d'être à la rue. Voilà,
et elles veulent échapper à la violence de la rue aussi.
Aussi. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'elles sont invisibles. Beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Les chiffres sont très flous là-dessus. Sauf que là, ça n'est pas un documentaire. Hein, c'est du cinéma avec un scénario beaucoup d'humour malgré le thème très sombre. C'est donc un film avec, vous l'avez dit, la plupart des comédiennes qui jouent finalement leur propre rôle, puisqu'elles ont toutes connu la rue, ces foyers, ce quotidien dont parle le film.
Alors, il y a une femme qui explose à l'écran, et c'est l'actrice principale Corinne Maziero, qui ne joue pas une femme SDF, qui le disait à Nikos Aliagas mercredi sur Europe 1.
Vous avez pleuré de rire avant tout, notamment à cause d'une nouvelle star du cinéma français qui s'appelle Adolpha Van Merag. Alors Adolpha, c'est une nana, moi c'est ma pote, hein. On fait un spectacle avec Adolpha depuis 2 ans et demi. Elle a écrit un livre sur son histoire. C'est le symbole de la résilience. Enfin voilà.
Quel bel hommage de Corinne Maziero, l'actrice qui incarne à l'écran aussi, à la télévision, la fameuse capitaine Marlowe. Elle parle d'Adolpha. Adolpha, c'est précisément cette femme que vous avez rencontrée dans son appartement. Racontez-nous son histoire.
Alors Adolpha, déjà, c'est une bombe d'énergie. Hein. C'est une vraie sans dents. Hein. La vie lui a tellement abîmé les dents que le dentiste a dû tout lui arracher. Mais alors, je peux vous dire que ça ne l'empêche pas du tout de sourire, de rire aux éclats même. L'humour, en fait, c'est vraiment l'une de ses armes hein, dans une vie très cabossée. Ça a commencé dès sa naissance.
J'ai marché, j'avais 4 ans et demi. J'avais les jambes en X, j'avais du rachitisme et de la décalcification des os. J'étais une mal branlée, comme on dit.
Mais pourquoi ?
Parce que ma mère l'a bu du Ricard au goulot. Alors donc, quand t'es élevé par des gens qui picolent, eh ben, t'es pas grand-chose. Hein. Bon, le samedi, ma mère, elle allait faire ses courses, on mangeait bien. Du dimanche, il y avait toujours bien à manger. Du mercredi, il n'y avait plus que des patates. Du jeudi, quand tu rentrais trois quarts de temps et que tu disais à ta mère, qu'est-ce que t'as fait à manger, maman ? T'as qu'à faire trop fort le tour de la table, elle dit, tu seras rempli. Alors, on faisait trop fort le tour de la table, on est tout rempli. J'ai connu la rue. Il y a la froideur, quand t'as froid, t'as froid. 50 ans de galère, 50 ans de misère. J'ai connu les coups, j'ai connu les attouchements, j'ai connu un petit peu de tout. Quoi. C'est vrai que j'ai connu tout. Et maintenant, je connais la vie.
Voilà, les attouchements, c'est les attouchements de son père. Hein. Les coups, c'est les coups de ses trois maris. Puis un jour, c'est trop violent. Elle tire sur son compagnon. Il meurt. Elle a fait donc 11 mois de prison, on l'a dit. La justice a retenu la légitime défense. Et vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit qu'elle avait adoré la prison, en fait, parce qu'elle se sentait en sécurité.
Et on comprend mieux pourquoi, en écoutant le parcours d'Adolpha, Corinne Maziero parle de résilience. Parce qu'effectivement, on se dit comment, après un tel parcours, elle se retrouve dans ce film, où elle n'est pas juste l'incarnation de ce qu'elle a vécu. Elle est plus, elle est une comédienne.
Oui, et bien parce qu'en fait, en prison, plusieurs personnes, dont la juge, lui conseille d'écrire son histoire et elle écrit « La vie bien rangée d'Adolpha ». Ce livre, il tombe un jour entre les mains de Corinne Maziero qui décide d'en faire une pièce de théâtre dans laquelle joue Adolpha. Et c'est Corinne Maziero qui la présente ensuite au réalisateur des Invisibles, Louis-Julien Petit. Ils se connaissent bien tous les deux, ils ont déjà joué ensemble. Et aujourd'hui, dit-elle, eh ben, la scène, c'est sa bouffée d'oxygène.
Quand je suis en train de jouer sur les planches, je ressens une chaleur de tous les gens qui sont là. Ça me stimule.
Et le cinéma ? Les Invisibles, ça vous a plu ?
J'ai bien aimé. Ah ouais. Je me suis trouvée grosse. Hein. Ah, je me suis trouvée énorme. Hein. Mais autrement, dans la vie, c'est bien ce que Julien y a mis. Hein. C'est bien ça. Hein.
On entend tout le bonheur qu'elle a de jouer, combien ça lui redonne cette vie dont elle parlait tout à l'heure, Carole. On a beaucoup ri, vous m'avez dit, sur ce tournage, parce que c'est vrai que le sujet n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est très amusant, ça c'est un détail, mais effectivement, toutes ces femmes SDF ont des pseudos, Brigitte Bardot, Chantal Goya. Voilà, ça fait partie
aussi.
Oui, mais
ça, dans les centres, ça existe réellement. Il y a souvent l'anonymat, parfois pour que les femmes ne soient pas retrouvées quand elles ont un mari, par exemple, qui les battait. Elles veulent rester anonymes, ou même entre elles, pareil, c'est cette idée de parfois un peu la honte, elles n'ont pas envie qu'on connaisse leur vrai nom.
Alors, c'est un superbe conte de fées que vous nous racontez, mais qu'est-ce qui a été le déclic pour que Adolpha s'en sorte ?
Alors, le déclic, il est venu en prison. C'est là qu'elle a fait, en fait, la rencontre de sa vie.
Alors, j'ai rencontré quelqu'un, Philippe Maillard, l'aumônier de prison. Je l'adore. Il m'a dit, lève la tête et ne la rabaisse jamais plus. Parce que si tu rabaisses ta tête, tu dis, t'es foutu. Et j'ai levé ma tête et puis je ne l'ai plus rabaissée. Ce qui m'a fait comprendre le père, que tout ce que j'ai eu, les attouchements, les coups, tout ça, que c'était pas de ma faute. Parce que moi, j'ai toujours cru que c'était de ma faute, tout ça. Que ça venait de moi.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous de pouvoir redresser la tête ?
Ça m'a permis d'avoir du boulot. Ça m'a permis d'avoir un logement. J'ai su parler, bien sûr, avec un peu de patois. J'étais pas une merde. J'étais humaine. C'est ça qu'il faut leur dire. On est humain. Il faut nous donner notre chance. Ça me permet maintenant de me rhabiller, parce qu'avant, je mettais toujours les habits des autres. Je n'ai jamais eu de beaux habits avec ma mère, je n'ai jamais eu de beaux habits avec mon ex-mari. Alors donc, je mettais toujours les habits des autres, tandis que maintenant, je m'achète des habits à moi.
Beaucoup de rouge, je crois.
Ah, j'adore le rouge. C'est ma couleur. Rouge et noir.
Alors, pourquoi ?
Comme ma chanson en rouge et noir. Je bâtirai mon cœur. J'irai plus loin que les montagnes de douleur. Il n'y a plus de montagnes qui sont infranchissable.
Vous êtes heureuse aujourd'hui ?
Ah ouais. J'ai même un petit chien maintenant. Tu veux voir mon petit chien ?
Ouais.
Il m'en fait voir toutes les couleurs. C'est un amour. J'ai eu 50 ans de misère, de merde. Et maintenant, je suis partie pour les 50 ans de bonne vie.
Voilà, 50 ans de bonne vie à venir. Quelle force de vie, Adolpha.
Incroyable.
C'est quoi aujourd'hui son quotidien? Elle transmet aux autres, elle essaie de les aider.
Elle travaille, hein. Elle a 70 ans, mais donc comme elle le dit très bien, sa vie commence seulement maintenant. Donc elle travaille dans une association, elle anime des ateliers d'art brut. Puis elle aide les femmes battues, les adolescents en difficulté. Elle me racontait qu'un jour, un jeune s'est confié à elle. Il lui a raconté que son père le violait. Elle lui a dit, avec toute sa gouaille bien à elle, hein, qu'on a bien entendu, qu'il devait parler. Elle a bien insisté. Puis un jour, il est revenu la voir en pleurs, des pleurs de joie parce qu'il s'était enfin libéré. Bref, c'est ça aujourd'hui de son quotidien. Elle aide les autres à surmonter leur montagne de douleur.
Merci beaucoup Carole Ferry. Et on rappelle que Les Invisibles, c'est en salle depuis mercredi. Et Corinne Maziero et Adolpha Van Merag, c'est son nom, continuent à tourner avec la pièce tirée du livre d'Adolpha, La vie bien rangée d'Adolpha. Et on pourra les voir sur scène le 26 janvier prochain, je crois, à Hazebrouck.
À Hazebrouck, c'est ça.
Merci beaucoup Carole.
Europe 1.
À suivre, et si les lycéens commençaient les cours plus tard, idée lancée par Valérie Pécresse, on a tout à y gagner, ils dormiraient mieux et ils auraient, paraît-il, de meilleurs résultats.
13h41, Tout Terrain, l'émission Grand Reportage d'Europe 1 se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et avec une expérimentation pour les lycéens.
Commencer les cours au lycée une heure plus tard, idée lancée par la présidente de la région Île-de-France. Réunion la semaine prochaine avec les recteurs pour voir comment cela pourrait être expérimenté dès la rentrée en septembre en région parisienne. À la clé, une heure de plus de sommeil pour les lycéens, et Virginie Salmen est allée leur demander ce qu'ils en pensaient.
Et si on vous disait, à partir de la rentrée, on commence à 9h?
Bah, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Vers 23h, des fois j'arrive pas à dormir, donc des fois ça m'arrive de rester éveillé jusqu'à 2h et de me réveiller vraiment fatigué et du coup d'être en cours à la ramasse.
Je pense que commencer plus tard ce serait mieux parce que déjà ça permettrait aux gens qui habitent loin de partir plus tôt, cas où les trains sont en retard, et aussi juste de dormir plus parce que souvent quand on a des devoirs par exemple, on se couche vers 22h, 23h et 8 à 7 heures de sommeil, c'est vraiment le minimum syndical, surtout pour les adolescents. Donc.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Spécialiste éducation d'Europe 1. On l'a bien compris en entendant les lycéens que vous avez rencontrés à la sortie de leur établissement, qui seraient ravis de se lever plus tard parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir le soir tout simplement. Mmh. Du coup, ils dorment en cours. Qu'est-ce qui a donné l'idée à Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, d'envisager de commencer les cours une heure plus tard?
Alors, c'est une étude scientifique américaine qui vient d'être publiée. Valérie Pécresse a retweeté les résultats de cette étude repris dans la presse française. Alors, ce sont des chercheurs en neurosciences de l'Université de Washington qui ont observé une centaine de lycéens de 16 ans qui commençaient les cours à 7h50 et qu'on a décalé à 8h45. Et ça a marché puisqu'au bout de 7 mois, ils dormaient en moyenne 34 minutes de plus par nuit. Alors, je suis allée demander à l'une des grandes spécialistes du sommeil en France, le docteur Sylvie Royan-Parola, ce qu'elle pense d'un réaménagement des horaires du lycée et surtout s'il serait intéressant d'essayer aussi en France.
On aurait tout bénéfice à essayer, en effet, sachant qu'il y a un comportement, effectivement, le soir qui a tendance chez l'adolescent à essayer de faire plein de choses le soir parce qu'ils sont tranquilles, ils sont contents d'être enfin seuls. Mais il y a aussi, sur le plan biologique, une sensibilité à la lumière qui est beaucoup plus forte et qui fait que leur horloge interne a tendance à se retarder, donc à se décaler avec un endormissement plus tardif et un réveil plus tardif. Une heure, c'est un bon décalage parce que c'est un bon compromis entre, effectivement, essayer de donner un peu plus de sommeil à l'adolescent alors qu'on est dans une société qui se décale et que physiologiquement ils sont effectivement à une époque de leur vie où ils se décalent, mais c'est pas trop dans le sens où on va pas repousser et favoriser, je dirais, encore cette tendance-là.
Donc on comprend bien que le docteur Sylvie Royan-Parola est tout à fait favorable à la mesure. Oui. Elle explique bien dans le son, hein, c'est pas de la faute aux ados s'ils se couchent tard.
Voilà,
hein.
Ils sont pas fainéants, voilà, c'est ça l'idée, c'est voilà. Qu'effectivement la lumière sur eux a un effet différent et donc ils perçoivent moins la chute de lumière en fin de journée et donc ils mettent beaucoup plus de temps à s'endormir.
Voilà, ça c'est un message pour les parents, mais les parents, ils ont un vrai rôle à jouer.
Oui, ça c'est important, c'est ce qu'elle dit aussi. Repousser d'une heure, c'est bénéfique, mais si les parents viennent en renfort et poussent leurs ados à se coucher le soir. Sinon, évidemment, l'année d'après, il faudra encore décaler d'une heure, puis encore d'une heure.
Ouais,
c'est un cycle
vicieux.
Un peu infini, effectivement. Donc c'est une mesure intéressante, justement, parce que les parents ne jouent plus leur rôle d'autorité. C'est ce qu'elle dit en substance, le docteur Sylvie Royan-Parola.
Les parents, actuellement, ne donnent déjà pas de consignes aux adolescents pour leur demander d'aller se coucher plus tôt, alors qu'on voit qu'il y a une réelle privation de sommeil chez l'adolescent. Donc, se dire qu'on va permettre de recaler les ados, justement, plutôt en travaillant sur les consignes parentales, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas opérant. Donc, si ce n'est pas opérant, il vaut mieux essayer de trouver le moyen terme le plus efficace pour que l'ado soit moins en souffrance dans notre société telle qu'elle fonctionne actuellement.
Bon, voilà. C'est pas gagné.
Vous avez entendu le message, hein, les parents ne font pas leur boulot.
J'ai bien compris le message. Est-ce que cela a un vrai effet sur les résultats scolaires ?
Oui, ça c'est le deuxième effet. Outre le sommeil, leurs notes sont en progression, donc toujours dans cette étude américaine, en progression de 5% par rapport aux élèves de l'année précédente avec exactement le même professeur, les mêmes programmes. Et puis un effet aussi sur l'absentéisme qui a beaucoup diminué jusqu'à 30% de moins sur cette cohorte d'une centaine d'élèves de 16 ans.
Alors, est-ce qu'une région peut décider comme ça toute seule d'aménager l'horaire d'un lycée, même si ce n'est pas adopté au niveau national ?
Alors, oui, sur le papier, c'est une décision qui appartient d'abord à chaque établissement scolaire avec l'aval de la région qui a en charge les transports et qui doit donc s'assurer que les bus, les métros arrivent bien, coïncident avec les horaires du lycée. Mais il y a un problème d'organisation des emplois du temps dans les lycées et en particulier des salles, parce que les salles ne sont pas extensibles et quand on fait un emploi du temps en début d'année, on essaie
c'est
de caser...
C'est un vrai casse-tête.
C'est un vrai casse-tête. On essaie de caser, par exemple, d'abord les cours dans les salles spécifiques, donc sport, physique-chimie, sciences naturelles, etc. Après, on voit ce qui reste, mais en général, il ne reste pas grand-chose. C'est pour ça, justement, probablement, qu'on commence aussitôt pour ne pas finir trop tard et puis pour que ce soit à peu près équilibré. Donc, ce serait faisable dans la mesure où l'emploi du temps peut être réaménagé de manière intelligente et ce qui supposerait sans doute, probablement même, de travailler, de remettre des cours le samedi matin pour que ça rentre, pour que toutes les salles soient pourvues et qu'il n'y ait pas des élèves qui fassent sport dans une salle de SVT ou dehors ou ailleurs. Quoi.
Donc pour on que le ça voit, colle. Un dossier qui ne se limite pas seulement à une heure, mais qui peut remettre en cause tout le rythme scolaire de la semaine.
Voilà, parce qu'effectivement, donc, c'est une décision locale, mais si au niveau national, on ne change pas les programmes, on ne change pas le nombre d'heures en lycée, eh bien, il faudra effectivement faire avec le nombre de salles existantes et puis un emploi du temps qui est déjà assez contraint en lycée.
Merci beaucoup Virginie Salmen. On le rappelle d'ailleurs, une réunion dès cette semaine avec les recteurs des académies Paris, Créteil et Versailles, qui concerne toute la région parisienne. Merci.
Merci.
Europe 1.
Il a fêté cette semaine ses 90 ans, il n'a pas pris une ride. Je veux bien sûr parler de Tintin qui séduit toutes les générations, on en parle dans un instant.
13h49, suite et fin de Tout Terrain avec vous Fabienne Lemoyle. Un Tout Terrain qui s'achève avec un anniversaire, Fabienne.
Je voudrais...
Un anniversaire.
Il a fêté ses 90 ans mercredi et il n'a pas pris une ride. La preuve, Tintin, bien sûr, séduit toutes les générations. Constat fait par Pierre Herbulot dans une librairie parisienne.
Par ordre d'apparition dans la librairie, Sylviane, la grand-mère, Émilie, sa fille et la petite dernière, Alia. Trois générations, mais un même réflexe, filer vers le présentoir des albums de Tintin. Et là, chacune a ses préférences.
Tintin et l'île, l'île mystérieuse.
Tintin au pays des soviétins.
Rakam le Rouge.
Tintin et Rakam, il y avait le trésor, non ? De Rakam le Rouge.
Bonjour Thierry Geffrotin.
Bonjour Fabienne.
Déjà une petite colle, votre Tintin préféré ?
Écoutez, je ne vais pas répondre, il y en a de trop. Non mais c'est vrai, l'affaire Tournesol par exemple, moi j'ai adoré. Dès qu'il y a la Castafiore, c'est mon côté musicien aussi, j'aime
des
beaucoup.
Des bijoux de la Castafiore. 250 millions d'exemplaires en tout cas vendus à travers le monde pour les aventures du jeune reporter d'Hergé. Qu'est-ce qui explique, Thierry, on vient de l'entendre, que les plus jeunes continuent encore à lire Tintin ?
Ben, c'est sorti du temps. Tintin, voilà, il a des culottes de golf. Alors, je ne pense pas qu'on en porte aujourd'hui vraiment beaucoup, mais à l'époque non plus, peut-être pas d'ailleurs. À l'époque, c'est-à-dire dans les années 30 et 40 et 50 et 60. Mais voilà, il est sorti du temps. Alors, on dirait que le personnage est un peu lisse, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même. Ce qui est vrai, c'est qu'il est entouré de personnages très pittoresques. Évidemment, le capitaine Haddock, Tournesol, je vous parlais de la Castafiore, les Dupont. Et tout ce monde-là va se promener dans le monde entier. Et Tintin, il sait tout faire. Hein. Il sait conduire un train, une voiture évidemment, une moto. Il sait conduire une fusée. Donc il y a quelque chose de magique. C'est l'aventure à l'état pur. Je ne vous parle même pas du dessin. Parce qu'au fil des années, Hergé, c'est devenu, comment dire, un artisan d'art de la bande dessinée. Vraiment.
Je vous propose d'écouter justement Thierry Marcel Villemette, il est spécialiste belge, j'ai envie de dire forcément de Tintin. Il a écrit Tintin noir sur blanc, Et il rejoint votre analyse justement sur pourquoi Tintin résonne toujours aujourd'hui, 90 ans après.
Le succès de Tintin, c'est surtout parce que c'est un personnage intemporel, c'est un personnage un peu transparent. On peut se prendre facilement pour Tintin. En plus, c'est quelqu'un de très sympathique, très honnête, très franc, très courageux. Selon moi aussi, un des éléments très importants, c'est le style de dessin de Hergé, sa fameuse ligne claire, sa façon de dessiner avec une ligne noire toujours de la même épaisseur, sans trop d'ombre et de choses comme ça, sans flashback. C'est très simple. On peut s'imaginer qu'après 2050, quand l'œuvre sera dans le domaine public, d'autres vont prendre la relève et faire des nouvelles aventures de Tintin.
Voilà Marcel Villemette qui rêve déjà de nouvelles aventures de Tintin. C'est possible, ça, Thierry Geffrotin ?
Alors, c'est possible parce qu'il existe déjà un début de commencement d'une aventure sur laquelle Hergé a travaillé à la fin des années 50. C'est Tintin, le Thermo Zéro. Il s'est inspiré d'ailleurs d'un fait réel, d'un couple d'Américains qui avait été contaminé de manière chimique. Vous savez, on les avait testés, c'était des cobayes. Et ça lui a donné une idée. Il a travaillé sur les scénarios, il a commencé à écrire des planches. Donc, il y a déjà un embryon.
Et c'est jamais sorti.
Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on se dit d'ailleurs que, en les ayant droit, il pourrait peut-être aller faire ce cadeau tintinophile aux amateurs. Et puis, on se dit en effet, mais on est en 2054 là. Au moment où ça va tomber dans le domaine public, et on se dit qu'en effet, quelqu'un pourrait reprendre, ou quelqu'un au pluriel, parce que faire un scénario, faire des dessins, c'est pas évident, sachant que Hergé ne souhaitait pas que
quelqu'un s'approprie son personnage.
Alors moi, je dirais que ça fait aussi, d'ailleurs, un peu la force, et que je mets en parallèle les aventures de Blake et Mortimer, hein, Jacobs, c'est aussi un des grands de la bande dessinée belge, de la ligne claire. Alors, certains s'en réjouissent parce qu'on continue à avoir des albums. D'autres disent, oh là là, non, c'était quand même... fallait pas y toucher à cette œuvre de Jacobs.
Ça montre en tout cas, Thierry Geffrotin, que Tintin, c'est un formidable business.
Ah oui, ça, c'est un business. Et ça date pas d'hier. Parce que le premier film d'animation remonte à 1947. Parce qu'évidemment, on pense tout de suite au film de Spielberg de 2011. Mais vous avez eu un film d'animation. Vous avez eu la première adaptation au cinéma. C'était en 1961 avec Jean-Pierre Talbot. Vous savez qu'il ressemblait si étrangement à Tintin. C'était en 1961. On a entendu le générique là, de la série télé, les objets dérivés. Chaque année, voilà, au total, on a 250 millions d'exemplaires qui ont été vendus. On dit dans 80 langues, c'est peut-être plus d'ailleurs.
Et on nous annonce quand même un deuxième film bientôt.
Alors c'est une option, a dit.
Au conditionnel.
Oui, a dit Benoît Mouchard, qui est le directeur éditorial des éditions Casterman. Donc il a choisi ses mots. Une option a été signée il y a peu de temps, là, avec Peter Jackson, producteur du premier film réalisé par Steven Spielberg, qui cette fois-ci serait donc producteur. Vous voyez, ils échangeraient les rôles. Alors ça pourrait être un mélange du sceptre d'Autocar et de l'affaire Tournesol, ou d'Objectif Lune et de On a marché sur la Lune. On n'en sait rien de plus. Ce qu'on sait, c'est que ces 3 ans de travail, on va attendre un peu, je pense.
Donc à suivre. Merci beaucoup Thierry Geffrotin.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Romain Noquet dans le cortège parisien de la mobilisation des Gilets jaunes. Jean-Luc Boujon, François Geffrier, Grégoire Martinez, Paul Lassen en direct de Las Vegas, Carole Ferry, Virginie Salmen et Thierry Geffrotin. À l'instant, un grand merci aussi à Capucine Patouillet pour la coordination et à Kevin Ousty pour la réalisation. Demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde. Ce sera avec Sophie Larmoyer.
C'était Fabienne Lemoyle. Fabienne qu'on retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard aux côtés de Philippe Blondel pour votre grand journal du soir.